Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
L'info, le sport, Stéphane Jeunesse, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous.
D'abord les titres.
L'imam Hassan Iqiyoussen arrêté en Belgique, le ministre de l'Intérieur s'en réjouit. Et la stupeur et l'embarras chez Europe Écologie Les Verts, un collectif de féministes en interne enquêtait en secret depuis 3 ans sur la vie personnelle de Julien Bayou.
Marseille fait plier Angers et prend la tête provisoire de la Ligue 1.
La matinale week-end.
Gérald Darmanin se réjouit donc de l'arrestation de l'imam Hassan Iqiyoussen.
Déclaration faite par le ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes en marge de son déplacement en Guyane. Hassan Iqiyoussen, qui était sous le coup d'une procédure d'expulsion du territoire français, mais introuvable depuis août, ce qui lui a valu un mandat d'arrêt européen. Et c'est en Belgique, grâce apparemment à ses communications électroniques, qu'il a été repéré puis arrêté, Guillaume Bier.
Après un mois de cavale, c'est bien en Belgique que le prédicateur a été retrouvé, comme le supposaient les autorités françaises. Le minutieux travail d'enquête de la police judiciaire a permis de le localiser à Mons, tout près de la frontière, à une 50aine de kilomètres seulement de son domicile, d'où il s'était enfui avant la décision du Conseil d'État confirmant son arrêté d'expulsion. Les enquêteurs français ont transmis tous les renseignements à leurs homologues belges, qui ont donc pu interpeller l'imam hier. La Belgique devrait désormais exécuter le mandat d'arrêt européen émis par la France, c'est-à-dire renvoyer Hassan Iqiyoussen, qui sera alors présenté au juge de Valenciennes en charge de l'information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Une expulsion qui, en revanche, est loin d'être acquise, car le Maroc refuse désormais de l'accueillir.
Précision signée Guillaume Bier, le chef du service police-justice de RMC. Et puis toujours au chapitre judiciaire, Patrick Poivre d'Arvor, sous le coup de 2 nouvelles plaintes pour violences sexuelles. L'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 est déjà concerné par une enquête ouverte par le parquet de Nanterre.
L'une de ces 2 nouvelles plaintes a été déposée après avoir lu le livre Impunité. Cette femme s'est décidée à parler après avoir lu ce livre Impunité. C'est signé Hélène Devin, journaliste, ancienne collaboratrice de PPDA, qui l'accuse également de viol. Hélène Devinck sera avec nous tout à l'heure, 8h40 sur RMC.
RMC, il est 7h02.
On en vient maintenant à ces informations publiées ce matin par le journal Libération. Julien Bayou, le désormais ex-patron d'Europe Écologie Les Verts, était visé par une cabale interne au parti.
Un collectif féministe informel lui reprochait son comportement avec les femmes. Ses membres auraient donc enquêté sur lui pendant 3 ans. Des enquêtes et des accusations de violences psychologiques qui ont d'ailleurs conduit à sa démission cette semaine du poste de secrétaire national du Parti Écolo, Martin Cadoréen.
Oui, lors d'une soirée entre militants en 2019, une proche de Julien Bayou est abordée par une militante. On enquête pour savoir si c'est un mec bien. Elle veut s'assurer qu'il n'est pas un prédateur. À la même époque, selon Libération, plusieurs ex-compagnes de Julien Bayou sont approchées par cette même militante de manière informelle afin de recueillir des informations sur son comportement. L'écologiste l'apprend, il se sait désormais sous surveillance. Mais l'année dernière, la rupture avec Aline, sa compagne depuis 3 ans, marque un tournant. Une conversation WhatsApp se crée entre ex-compagnes déçues de Julien Bayou avec pour objectif de le mettre hors d'état de nuire. Puis en juin dernier, Aline accuse l'écologiste dans un mail au cadre du parti d'être lâche et manipulateur. Elle fait part de sa volonté de mettre fin à ses jours. La cellule contre les violences sexuelles du parti s'auto-saisit. Sauf qu'au sein de cette cellule siège l'une des femmes qui enquête depuis 3 ans sur la vie de Julien Bayou. Il est immature, mais c'est tellement banal, juge une ex-compagne, on ne va pas lui faire un procès pour ça.
Les précisions de Martin Cadoré pour RMC.
La Russie qui confirme l'annexion de 4 territoires ukrainiens.
C'était lors d'une grande cérémonie hier sur la place rouge de Moscou, Vladimir Poutine qui s'est exprimé et qui a profité pour s'en prendre violemment à l'Occident. Une annexion qui est d'ailleurs condamnée par la communauté internationale. Un projet de résolution en ce sens à l'ONU était en projet. Il appelait à ne pas reconnaître cette annexion par la Russie. Il a notamment été bloqué par Moscou et ses alliés. Et puis en Floride, nouveau bilan. Après le passage de l'ouragan Yann, 23 personnes ont perdu la vie. Yann, qui a été rétrogradé en tempête, il traverse actuellement la Caroline du Sud.
On revient en France, Stéphane, avec ce dernier lever de rideau ce matin pour les 500 boutiques Camailleux.
L'enseigne de prêt-à-porter féminin met définitivement la clé sous la porte ce soir. Camailleux, qui a été placé en liquidation judiciaire en milieu de semaine. Au total, plus de 2600 salariés vont se retrouver sans emploi. Et évidemment, c'est avec une émotion particulière particulière qu'ils vont ouvrir ce matin, Cyprien Pézril.
Pour la toute dernière fois, Waeba accueille aujourd'hui ses clientes.
On n'arrive pas encore à mettre dans la tête que c'est fini. Pour l'instant, je travaille, j'encaisse les gens. Pour moi, c'est encore là, elle est encore là, Camille.
Un sourire et de l'entrain pour masquer tristesse et désarroi. Toute une carrière à vendre des vêtements chez Camailleux et qui prend fin brutalement avec la liquidation.
C'est très violent, la décision elle est venue en 3 jours, on est angoissé. Je vais pleurer, j'ai plus de travail, on a quand même des charges. Moi j'ai un enfant, puis femme célibataire, et ça va faire vraiment mal.
Pour les dernières heures d'ouverture, les clientes se bousculent, sortent avec leurs derniers achats, comme Mijanou et Thérèse.
Vraiment ça fait la peine aussi pour toutes ces personnes qui ne vont pas avoir de travail.
Vraiment.
Vous savez, 35 ans, fidèle à une boutique, je me suis dit, je peux pas quand même ne pas aller, ne pas acheter quelque chose. Mais c'est pas pour les promos qu'on est venus. On est venu leur dire au revoir.
J'ai acheté hier et je suis retournée aujourd'hui. C'était de la bonne qualité, hein, à des prix raisonnables. Qu'est-ce qui va nous rester que des magasins, des enseignes très très chères?
Ici, les 5 salariés de cette boutique vont devoir pointer à Pôle emploi, 2600 à l'échelle du pays. Et face à cela, les syndicats envisagent des poursuites judiciaires contre les actionnaires.
Le reportage de Cyprien Pézril. Et puis c'est à noter, hein, tout est à moins 50% dans les boutiques du groupe Camailleux aujourd'hui.
Et puis cassons un peu les clichés ce matin. Au revoir les après-midi à faire du tricot, à jouer au rami ou bien à regarder Inspecteur Derrick à la télé. Nos aînés veulent faire des siestes, mais crapuleuses.
D'après un rapport publié par l'association Les Petits Frères des Pauvres, les seniors sont pour le coup adeptes des relations intimes. Une personne interrogée sur deux. Et Amandine Rio, vous l'avez constaté, à plus de 60 ans, on a la sagesse de l'âge et la fougue de la jeunesse.
Laurence, parisienne divorcée de 63 ans, cherche l'amour et son âge n'est même pas une question.
Comme quelqu'un de 20 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans, je recherche quelqu'un dont je puisse me sentir amoureuse. C'est pas juste pour avoir un bâton de vieillesse, dire ah bah on finit tous les deux en soignant nos rhumatismes.
Pascal, divorcé lui aussi, l'assume. À 65 ans, on a toujours besoin d'affection.
Ça me manque énormément. Après le côté sexuel, oui, mais enfin bon, la libido diminue avec l'âge. Bien sûr, ça compte. Mais ce qui me motive, c'est vivre des bons moments avec une personne agréable.
À l'agence matrimoniale, entre elle et lui, un tiers des dossiers concernent les seniors. La directrice Valérie Brua.
Vieillir, c'est tabou, donc on ne parle pas beaucoup de la vieillesse. Quand j'ai commencé à recevoir des candidats qui avaient l'âge de mes grands-parents, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait avoir effectivement une vie sentimentale et être en demande de sexualité. J'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont parlé de sexualité à 80 ans. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans la vie, la sexualité est présente aussi.
Selon le rapport des Petits Frères des Pauvres, un senior sur deux a des relations intimes.
Vous témoignez, hein ?
Oui, vous avez écouté attentivement le reportage,
bah,
Mathieu.
Bien sûr, c'est un sujet plus que d'intérêt. Il y a déjà des messages, Peggy.
Oui, par exemple, sur le groupe Facebook Les Matins RMC, Adèle nous dit « Sexagénaire, mais plus d'envie depuis mon dernier échec sentimental ». N'hésitez pas, vos messages, hein, vous pouvez également les laisser sur l'appli RMC Direct Studio.
Vous discutez de tout le matin sur RMC, 7h07. En Ligue 1, Stéphanie Roch, l'OM a fait sauter le verrou angevin.
Victoire 3-0 à Angers et Marseille qui enchaîne à un train d'enfer. Cette victoire est de nul. Pour Valentin Rongier, le milieu de terrain, il va falloir compter sur l'OM cette saison.
On enchaîne en championnat du moins et on a un gros rythme et on est très content d'avoir bien repris après cette trêve internationale parce que c'est jamais des matchs faciles. Ça veut dire que voilà, on est là et qu'on a un gros rythme. Paris n'a pas encore joué, mais c'est vrai que 23 points c'est beau et on fait ce qu'il faut sur le terrain et ça fait plaisir d'être récompensé d'un point de vue comptable.
Marseille est donc en tête de la Ligue 1 au moins jusqu'à ce soir puisque attention, le PSG reçoit Nice.
L'occasion de fêter ou non d'ailleurs les retrouvailles entre Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, et son ancien club. Cette semaine sur RMC, Julien Fournier, l'ancien directeur sportif niçois, avait accusé le technicien d'avoir eu des comportements discutables avec certains joueurs dans le vestiaire, sans en dévoiler plus. Une polémique que Mario Limina, le milieu de terrain azuréen, ne souhaite pas alimenter.
On était au courant de rien jusqu'à ce que on voit les choses comme tout le monde sur les journaux ou les réseaux. Quand tu passes de Nice au Paris Saint-Germain, c'est que t'as fait du très bon travail. Il y a eu ce qu'il devait avoir dans un groupe normal, en fait. Il y a eu des mécontentements, comme dans tous les groupes. À part ça, il n'y a pas eu d'animosité qui permet, en tout cas, qu'on en parle à ce point-là.
Du côté sportif, un nul suffira au Paris Saint-Germain pour reprendre à Marseille la première place du classement général.
Et puis 17e Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Singapour ce week-end.
Et en coulisses, les tractations se poursuivent en vue de la saison prochaine. La perspective de voir les deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, concourir dans la même écurie, prendre l'épaisseur. Deux pilotes français sous les mêmes couleurs, cela fait 29 ans que ça n'est pas arrivé, Morgan Maury.
En F1, on dit souvent que votre premier adversaire est votre coéquipier. Si l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine se confirme, la collaboration avec Esteban Ocon pourrait être explosive. Entre les deux, les relations sont très fraîches. Ocon et Gasly, 26 ans tous les deux, ont grandi à 60 km l'un de l'autre. Famille de garagistes pour Ocon, de chef d'entreprise pour Gasly. Enfants, ils ont visé les mêmes victoires, vissées dans leur petit karting. Jusqu'à la F1, les deux Normands ne se sont presque jamais quittés. Leur animosité vient de ses premières guéguerres. Ces dernières semaines, Ocon a réclamé Mick Schumacher comme futur coéquipier chez Alpine et pas Gasly. Deux tricolores dans une équipe française, ce serait du jamais vu depuis 1994 avec les écuries Ligier et Larousse. Gasly et Ocon n'étaient pas encore nés.
Pierre Gasly qui a connu une mésaventure lors de la deuxième séance d'essai libre. Il a dû être évacué de sa voiture en proie aux flammes. Le pilote effectuait un retour au stand, mais il est sorti indemne.
Départ demain à 14h. Merci beaucoup Stéphanie Roch. Nous on se retrouve tout à l'heure 7h30 pour le point complet sur les sports. 7h10, on se réveille ensemble et c'est un plaisir chaque week-end, le samedi, le dimanche. Vous savez que c'est un plaisir partagé, j'en suis très fier. Tiens, Monique est avec nous. Bonjour Monique.
Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Chamalière.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Moi, je vais très bien, je suis contente.
Vous avez une voix souriante.
Je suis contente de vous avoir au téléphone, vous représentez tout RMC.
Ah, bah ça, c'est sympa. Et Monique Chamalière dans le Puy-de-Dôme, juste à côté de Clermont-Ferrand, hein, on est
tout
d'accord,
Monique ? Tout à fait, oui.
Vous êtes en forme ?
Bien.
Quel est le programme de votre journée, Monique ?
Eh bien, aujourd'hui, ça sera un shopping.
Ah oui ?
Très bien.
Très bien, Monique.
Un shopping et puis un peu de marché ce matin, bien sûr.
Bah évidemment, pour faire les petites courses pour la semaine.
Eh ben oui, on garde les vieilles habitudes.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu au menu ce matin, ce midi ?
Ce midi, comme repas ?
Oui.
Ben j'ai commandé de la choucroute.
Bah c'est pas mal. Oui, même
ça nous parle.
Même en Auvergne, on peut se faire une petite choucroute. Est-ce que vous avez envie de...
Il n'y a pas d'a priori chez moi, aucun.
Bah évidemment. Alors, et si vous aimez l'Alsace et la choucroute, vous aimez aussi la Sarthe et les rillettes, Monique ?
Non.
Attendez. Mais non, c'est pas possible.
Attendez, on va vous faire aimer les rillettes.
C'est scandaleux.
C'est scandaleux.
Bonjour Johan.
Bonjour l'équipe.
Désolée pour Apolline si elle l'apprend aussi.
Ah bah oui, Apolline la sartoise. Moi aussi, d'un certain côté sartois. Enfin, je suis juste à côté, nos gens le retrouvent.
Oui, parce que moi, je vous écoutais quand vous étiez la semaine.
Maintenant, on se retrouve le week-end. Et Johan qui était avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
En studio, parce que vous pouvez aussi de temps en temps, si vous êtes de passage à Paris, passez nous voir, c'est un plaisir. Johan, en déplacement professionnel.
C'est ça, déplacement professionnel dans le Val d'Oise. Et donc du coup, je me suis dit, allez tiens, j'ai des petites rillettes dans le camion.
Vous n'êtes pas venu les mains vides, super.
Et si je faisais plaisir.
Alors on a quoi des vraies, des rillettes de porc, et puis quoi.
Une petite rillette de poulet rôti.
Je sens en plus le pain chaud là qui est juste à côté.
C'est ça.
Oh là là, je crois que je vais vous laisser, Mathieu.
J'ai l'impression que
vous allez continuer l'émission tout seul.
Stéphane Genest a déserté le studio pour aller s'entraîner. On verra à quoi ressemblent les prochains journaux. Johan, c'est sympa de passer.
C'est vrai que je vous ai souvent à la radio, donc voilà, de temps en temps des petits SMS avec toi, Mathieu.
On échange.
Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas venir ce matin. Allez, on a mis le réveil un peu plus tôt avant de commencer le travail.
Et puis
je vous emmène les petites rillettes quand t'es médaille d'or encore cette année au Salon de l'Agriculture.
Ah oui,
l'esprit RMC.
Pas n'importe lesquels.
Les rillettes pruniers, on va les citer.
C'est vœux rillettes.
C'est exactement, c'est de rillettes paillettes, made in Sarthe. Merci, Johan, on va se régaler avec vous. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, la famille RMC au grand complet ce matin. Allez, 7h13, reparlons un peu d'actualité. De qui allons-nous parler exactement, Peggy ?
De Castaner, de Blanquer, de l'Allemand. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous retrouvé du boulot.
Oui, à la mer, au port de Marseille, prof à la fac. Est-ce que recaser d'ancien préfet, d'ancien ministre, ça vous choque ? C'est à vous de nous dire et c'est dans deux minutes.
RMC, la matinale week-end.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 7h16 sur RMC. Vous connaissez l'adage, en politique, on ne meurt jamais. Ça se vérifie encore ce matin.
RMC, à vous de nous dire.
Margot Bourdin, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour Margot.
Le débat ce matin, au 32-16, mais aussi sur notre compte Twitter depuis 24 heures. Recaser les anciens préfets, les anciens ministres, est-ce que ça vous choque ?
Oui, pas de retraite anticipée pour Jean-Michel Blanquer. L'ex-ministre de l'Éducation nationale a fait sa rentrée hier, de retour dans les salles de cours, mais cette fois comme prof de droit dans une fac parisienne. Pas de retraite non plus pour Didier Lallement. L'ex-préfet de Paris est nommé au poste de secrétaire général général à la mer. On l'a appris cette semaine. Didier Lallement qui va prendre ses fonctions après-demain. Sa mission, contrôler, évaluer et coordonner la politique maritime du gouvernement. Alors, il faut savoir que le poste est toujours occupé par des hauts fonctionnaires. Pas de surprise donc à voir un ancien préfet désigné. Mais sa nomination fait grincer des dents du côté notamment des défenseurs des océans et des mers qui redoutent une mauvaise gestion des dossiers parce que Didier Lallement a derrière lui quelques polémiques. On lui reproche une gestion brutale et musclée des manifestations, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il a d'ailleurs été visé par deux informations judiciaires dans ce dossier. Dernière en date, les débordements au Stade de France l'été dernier, alors qu'il était encore préfet de Paris.
Autre nomination qui fait polémique, celle de Christophe Castaner.
Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur va très certainement prendre la présidence des ports de Marseille, annonce faite par Renaud Muselier dans les colonnes de La Provence. Colère de certains dockers qui dénoncent du favoritisme. On écoute Pascal Galéotet, le secrétaire général de la CGT du port de Marseille, au micro RMC de Lola Baye.
Aucun des critères qui avaient été entre guillemets identifiés pour ce poste-là n'est aujourd'hui rempli avec la candidature de M. Castaner, sachant que, compris sur les aspects économiques, de connaissance du territoire, d'Interland et des questions portuaires, il n'a aucune connaissance à ce jour. Donc aujourd'hui, rien ne justifie ce parachutage voulu par les plus hauts sommets de l'État.
La CGT a d'ailleurs déposé un préavis de grève. Christophe Castaner précise, lui, qu'il ne touchera pas de rémunération pour ce poste.
À vous de nous dire, ces recasages sont-ils choquants?
Nos internautes répondent oui à 87% sur Twitter. C'est du copinage d'État, dit Romain. Patrick s'amuse du nouveau poste de Didier Lallement. On sait que la mer est une poubelle, mais à ce point, c'est grave. Il y a la question de la compétence et également les bilans de leurs anciens jobs, souligne Sébastien. Voilà pour les avis de nos auditeurs. Et je tiens également à vous lire, Mathieu, le commentaire d'un certain Dominique Bussereau, ex-ministre, qui souligne, lui, que la fonction régalienne de secrétaire général à la mer est parfaitement adaptée à un membre expérimenté du corps préfectoral.
Mais vous voyez que tout le monde peut débattre sur RMC et sur notre compte Twitter, y compris un ancien ministre des Transports, si je ne m'abuse, Dominique Bussereau. Je lis vos messages, Jérémy Dubourdoisan, pas choquant non plus. Ce qui choque, ce sont parfois les incompétences de certains à certains postes. Seb, au contraire, nous dit, moi, ce qui me dérange, c'est le remplacement des copains-copines. C'est juste inadmissible. Tiens, qu'en pense Valérie dans les Alpes-Maritimes? Bonjour Valérie.
Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à toute l'équipe.
Vous trouvez ça même écœurant, vous?
Oui, moi, ça m'écœure. Alors, je vais quand même modérer mes propos. Effectivement, pour la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent de l'ENA ou, disons, des corps d'État.
Oui, aux fonctionnaires.
Voilà. Donc, qui ont déjà exercé une fonction dans les ministères, voire même ministre, secrétaire d'État, etc. Mmh. Donc, tant qu'ils ont exercé leur mission, tant qu'ils font leur mission, tant qu'ils sont élus, qu'ils sont députés, etc., pas de souci. À partir du moment où ils ne sont plus ministres, à partir du moment où ils ne sont plus députés, qu'ils n'ont plus de mandat, donc, qu'est-ce que ces gens-là viennent faire à des postes où finalement c'est le fait du prince? Ils sont parachutés, on ne connaît pas leurs compétences par rapport au poste qu'ils vont avoir. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont changé, on va prendre le cas Castaner.
Oui, là, alors, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Tout ce que vous décrivez, Valérie, on décrit vraiment le cas Castaner, parce que voilà. Didier Lallement, bon, on peut lui reprocher ce qu'on lui reproche, mais comme vous dites, c'est un haut fonctionnaire, c'est un secret, c'est un fonctionnaire d'État.
Absolument.
Bon, qu'il retrouve une autre fonction après celle qu'il a occupée à la préfecture de police de Paris, a priori, tout ça est normal. Comme pour les autres fonctionnaires, finalement. Ce qui vous choque, c'est plus le cas Castaner.
Voilà, parce que Castaner, je crois qu'il a fait des études de droit. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est arrivé en politique assez jeune. Mm-hmm. Il a toujours été dans ce milieu-là. Donc, en fait, on a l'impression que c'est une fonction à vie. Alors, lui-même dit, je ne ferai plus de politique. Je me retire. Visiblement, donc, il est pressenti pour ce poste
au port de Marseille.
Voilà. Ouais. C'est quand même par rapport à ce que Macron a mis en place sur Marseille pour sa politique. Voilà.
Au fond, vous rejoignez Sébastien qui dit bon, c'est le recasage des copains et des copines.
Absolument.
Sébastien qui.
Et ce monsieur, moi, ce qui me gêne, c'est quelle compétence ce monsieur a. Il a été député, il a été porte-parole. Il a perdu son mandat de député. Il n'a pas eu de nouveau mandat de député, comme beaucoup au gouvernement qui ont été
n'est plus qualifié pour exercer un mandat public quel qu'il soit, que ce soit au port de Marseille ou ailleurs. Sébastien ajoute, je pense qu'ils sont assez intelligents et ils ont assez de réseau pour se débrouiller tout seuls et retrouver du boulot dans le privé, comme c'est le cas, par exemple, pour l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Oui,
vous êtes d'accord, Valérie ? Ben, bien sûr.
Je pense qu'il a, il doit avoir un carnet suffisamment long pour trouver lui-même un emploi.
Bon.
Pourquoi le parachuter à Marseille comme ça ? Surtout que bon, ce monsieur, il vient de la région de Fort-Calquier, les Alpes-de-Haute-Provence.
Ouais.
Il va faire quoi ? Il va faire le trajet tous les jours. Il va participer à quoi ? Alors il vous dit ah mais je ne suis pas rémunéré. Oh alors ça c'est l'argument comme monsieur.
Oui, à la limite c'est pas ça qui importe, Valérie. J'ai bien compris. C'est plus ne serait-ce que le fait de sa nomination. Allez-y, on poursuit parce que ça vous fait beaucoup réagir. Hein, beaucoup de messages, Peggy. Allons-y. 32-16 aussi pour intervenir comme Valérie. Merci Valérie. Bonne journée.
Bonne journée Valérie.
Il est 7h23.
À suivre dans la matinale week-end.
Ah, on a une bonne nouvelle.
Eh oui, une éclaircie pour les futurs propriétaires. Pourquoi ? Parce que les crédits seront plus facilement accordés ce mois-ci.
Oui, c'est le taux d'usure qui remonte. On va tout comprendre, le coup de main IMO, dans une minute.
RMC, la matinale week-end. C'est la matinale week-end.
7h24, soyez les bienvenus. Allez, comme promis, quelque chose qui va vous faire plaisir si vous cherchez à acheter.
Le coup de main immobilier.
Votre rendez-vous immobilier sur RMC, les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roy.
Oui, et donc avec une bonne nouvelle ce matin. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour.
Ce fameux taux d'usure dont vous n'arrêtez pas de nous parler depuis la rentrée. Ce taux d'usure augmente très nettement à partir d'aujourd'hui, 1er octobre. Un taux qui augmente et vous allez nous faire croire que c'est une bonne nouvelle.
Mais oui, c'est vrai, une bonne nouvelle. Et oui, parce que je le répète, le taux d'usure, c'est pas le simple taux d'intérêt que va vous proposer la banque. Non, c'est un taux global, tout compris, avec en plus l'assurance de prêt et en plus les frais de dossier. Et ce taux tout compris, c'est aussi et surtout le taux maximal auquel les banques sont autorisées à vous prêter de l'argent. Alors au départ, il est censé nous protéger pour éviter de payer trop cher nos crédits immobiliers. Mais vu le niveau d'inflation et le contexte économique, depuis quelques mois, les banques, elles préfèrent carrément ne plus prêter du tout plutôt que de continuer à perdre de l'argent sur le crédit immobilier. Car justement, ce taux d'usure était beaucoup trop faible, 2,57% pour les crédits au-delà de 20 ans. Ça voulait dire que pour que le crédit passe, la banque, elle devait ne pas dépasser 1,80-1,90% au niveau du taux d'intérêt qu'elle vous proposait. Mais là, donc, vous le disiez, Mathieu, youpi, le nouveau taux d'usure pour les trois prochains mois, il est tombé, il monte à 3,05.
Ça donne de la marge.
Oui, voilà, c'est une bonne nouvelle. Olivier Landrevi, le patron du réseau de courtage CAFPI, nous en donne la mesure.
Ça veut dire que les banques vont pouvoir prêter jusqu'à environ 2,40 pour la grande majorité des Français. Donc oui, ça va permettre de débloquer de nombreuses situations de dépassement de taux d'usure qu'on avait pu observer ces dernières semaines.
Débloquer les blocages techniques, ça y est, c'est terminé, Marie ?
Eh non, parce que si le taux d'usure est fixé pour 3 mois, bah les taux d'intérêt, eux, ils peuvent augmenter beaucoup plus rapidement. En fait, le taux d'usure, ce n'est qu'une partie de l'équation, selon Olivier Landrevi de CAFPI.
L'autre moitié de l'équation, ce sont les taux pratiqués par les banques. Et on voit depuis mi-août des taux de marché qui remontent très fort. On peut s'attendre à ce que les banques réajustent progressivement leur barème de taux. Et on pourrait donc assez vite, avant la fin du mois d'octobre, selon moi, retrouver des tensions liées au taux d'usure telles que celles qu'on avait pu connaître depuis quelques mois.
Donc là, vous l'aurez compris, on a une petite, voire une très 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 petite fenêtre de tir pour décrocher notre crédit.
Vous vous dépêchez, là.
Ouais, c'est ça. Un mois tout au plus et après, ce sera reparti pour les blocages parce que les banques vont continuer à augmenter les taux d'intérêt. Ils dépasseront d'ici quelques semaines la fameuse barre des 2,40%. L'usure à 3,05 sera donc de nouveau un problème, ce qui empêchera évidemment beaucoup de ménages d'avoir un crédit.
2,40, ça veut dire que les banques, elles vont nous faire payer nos crédits plus cher et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution.
On n'a pas vraiment le choix, effectivement, parce que soit vous acceptez de payer votre crédit plus cher, soit vous n'avez pas de crédit du tout.
Ouais.
Alors oui, c'est vrai que les taux d'intérêt augmentent vite. En gros, on est passé d'1% sur 20 ans en début d'année, là en janvier, à 2% environ aujourd'hui. Un point d'écart, c'est quand même 10% de capacité d'emprunt en moins. C'est beaucoup, oui. Mais rappelez-vous, lorsque l'inflation était au même niveau qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils oscillaient autour de 3,5% voire 4%. Donc c'est logique qu'ils augmentent. On est simplement en phase de normalisation. Ça va bien se passer, Mathieu.
Bon, on espère. Merci, Marie. Le coup de main IMO à retrouver en podcast sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
L'essentiel de l'info Stéphane Genest, c'est d'abord la Russie qui confirme. La Russie a bien annexé une partie de l'Ukraine.
Quatre régions du pays de l'Est et du Sud, les pays occidentaux qui ne reconnaissent pas cette prise de territoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, Alexandra Sirgan?
C'est près de 100 000 km de territoire ukrainien que s'approprie la Russie. Cette annexion marque un véritable tournant dans le conflit, selon Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
Si ces quatre territoires deviennent des sujets de la Fédération de Russie, ils bénéficieront de la protection de la dissuasion nucléaire russe et les populations de ces territoires seront mobilisables. Donc, le rapport de force sur le terrain militaire, pas immédiatement, mais à moyen terme, sera changé.
En revanche, pas de véritable changement de comportement à prévoir du côté des Occidentaux, explique Sylvain Kahn, géographe et historien spécialiste de l'Europe.
On va continuer à armer les Ukrainiens, on va continuer à les soutenir, on va continuer à être derrière eux, mais rien n'indique que les Occidentaux vont s'engager militairement dans le conflit.
Dans l'immédiat, les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort.
Des négociations au point mort, d'autant que la communauté internationale condamne ces annexions. Les États-Unis qui devraient dans la semaine fournir une nouvelle aide militaire à destination de Kiev.
Les États-Unis qui sont frappés par Ian, cet ouragan rétrogradé en tempête désormais, mais qui a fait 23 victimes en Floride.
Et le bilan n'est que provisoire, il pourrait s'alourdir. Antoine Laron, on vous retrouve, vous êtes sur place, évidemment. Évidemment, c'est la désolation.
La situation reste très compliquée. Il y a toujours des personnes qui sont coupées du monde et dont on est sans nouvelles. Il y a donc des opérations de recherche et de secours qui se poursuivent dans des conditions difficiles. Il faut vérifier chaque maison, faire du porte-à-porte, tout ça sur une zone immense. Le travail est titanesque pour les secours. Ailleurs, les opérations de déblayage commencent. Il y a d'ailleurs beaucoup de solidarité avec des gens qui viennent aider. Mais là aussi, la tâche est immense. Il y a des débris et des dégâts sur des centaines et des centaines de kilomètres. Enfin, pour ne rien arranger, dans certains secteurs, l'eau continue de monter. Et ce soir, c'est une partie de l'autoroute qui est coupée par l'eau.
Antoine Eulard en Floride pour RMC.
Et puis le reste de l'actualité en bref, Stéphane.
Tout à moins 50% chez Camaïeu ce samedi. Dernière journée d'ouverture des 500 boutiques de l'enseigne avant leur fermeture définitive ce soir. Plus de 2500 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Et puis l'imam Hassan Iqiyoussen arrêté hier en Belgique. Réaction ce matin du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ils sont réjouis. On y revient évidemment dans le journal de 8h.
La voix de Stéphane Genest va-t-elle tenir jusqu'à 9h?
Restez en bien avec nous
dans la matinale week-end. Un peu de rillettes, un peu de miel, oui. 7h34.
RMC, le journal des sports.
Stéphanie Roch est avec nous. La Ligue 1, Stéphanie. Nice se déplace à Paris ce soir après une trêve agitée.
L'OGC Nice n'a pas rempli les objectifs fixés par la direction. Une décevante 13e place au général et déjà 4 défaites au compteur en 8 matchs. Loin, très loin de la promesse de beau jeu que laissait entrevoir le retour du technicien suisse Lucien Favre. Explication, Maxime Tillette.
Après une trêve mouvementée et le nom de Mauricio Pochettino évoqué pour le remplacer, Lucien Favre est toujours là. Sur la sellette, l'entraîneur de Nice reste malgré tout focalisé sur sa mission.
Les rumeurs sont les rumeurs, mais pas de problème, je connais ça. On a une très très bonne réunion une fois où il s'est exprimé. C'était une discussion avec tous les joueurs, tout le staff, etc. C'était très bien. J'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. Moi, je me focalise sur les 11 matchs qu'on a jusqu'à novembre, puis le reste, c'est comme ça.
Le premier de ces 11 match est sans doute le plus difficile à Paris, mais pas question pour autant d'arriver dans la capitale sans ambition.
Nous, on veut faire notre match. On sait qu'il faut être très soudé pour ce match-là, très solidaire, très compact surtout, qu'il faut oser et qu'il faut le jouer. Il ne faut pas avoir peur, il faut jouer.
Les Niçois espèrent une bonne performance au Parc des Princes pour entamer leur remontée au classement.
Oser, après 8 journées, Nice compte déjà 14 points de retard sur le PSG. Match à suivre dès 21h sur RMC.
Et un peu plus tôt dans l'après-midi, Rennes se rend à Strasbourg.
Avec des certitudes, 8e au général, Bruno Genesio a des motifs de satisfaction. Les Bretons ont enfin trouvé leur rythme de croisière.
Je sens une équipe qui commence à prendre forme, à trouver ses marques. Et c'est ça qui va être très important sur ces 11 matchs. Il n'y a pas d'objectif de podium avant la trêve. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à progresser dans le jeu, parce qu'on sait que c'est grâce à ça qu'on aura sur la durée des résultats.
Rennes aura sûrement une statistique en tête cet après-midi. Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir gagné encore aucun match cette saison.
7h36, le criminologue Alain Bauer a remis un rapport, son rapport pour endiguer la violence dans les stades.
Un rapport diligenté par la Ligue de football professionnel après une année marquée par de nombreux débordements lors des matchs de première mais aussi de deuxième division. Timothée Mémon a pu le consulter.
Cibler les problèmes dans les stades de football français, c'est le vaste sujet qu'Alain Bauer, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers en charge du pôle sécurité, défense et renseignement, a dû prendre en main. Pour ce faire, ce spécialiste des questions de flux dans les enceintes a réalisé un tour de table.
Les gens travaillent chacun de leur côté, se parlent peu. Donc l'idée d'avoir quelqu'un venu de l'extérieur permettait que chacun puisse parler librement.
Fort de ses conclusions, mais face aux spécificités locales, Alain Bauer prône des solutions au cas par cas.
Plutôt du sur-mesure que du prêt-à-porter. Définir une doctrine nationale mais une pratique locale avec des contrats de site qui implique la main tendue et le dialogue partenarial avec les supporters sous une forme ou sous une autre.
Les premières recommandations de ce rapport ont déjà été mises en place, mais Alain Bauer le reconnaît lui-même, il faudra du temps pour que cela porte ses fruits. Il faudra aussi convaincre les groupes ultras plutôt rétifs lors de la consultation, à l'image de l'Association Nationale des Supporters qui n'a pas souhaité y participer.
Le porte-parole de l'Association Nationale des Supporters justement précise aujourd'hui dans l'équipe qu'Alain Bauer ne les a pas sollicités. Et justement, puisqu'on évoque les débordements, Marseille a été condamné hier par l'UEFA à 30 000 euros d'amende, une décision qui fait suite aux incidents survenus lors de Tottenham-Marseille. C'était en Ligue des Champions le 7 septembre dernier.
Et puis, nous partons à Roland-Garros, pas pour de la terre battue, mais pour du sable tout ce week-end.
C'est la première édition du Beach Pro Tour, une compétition internationale qui regroupe les meilleurs spécialistes de la discipline. On parle bien sûr de beach volley. Alors, est-ce qu'ils porteront leurs lunettes de soleil aujourd'hui, leurs petites visières? C'est pas sûr, vu la météo, on en parlera tout à l'heure encore avec Peggy. La particularité de cette compétition, c'est qu'elle a lieu sur le central de Roland-Garros, un cadre mythique. Et sur place, le public répond présent. Maria Azé.
Du sable à la place de la terre battue sur le court Philippe Châtrier, un spectacle peu habituel à Roland-Garros mais qui attire les foules.
Le stade est très sympa, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique, donc moi j'adore.
Ça super parce que c'est sur le central aussi, du coup il y a tous les gradins, tout le monde qui encourage et puis le terrain au milieu, c'est incroyable quoi.
Au total, près de 15 000 personnes sont attendues sur le week-end, notamment pour soutenir les 4 paires françaises, dont celle de Yannick Croup.
Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde, c'est vraiment super cool.
Et à moins de 2 ans des Jeux de Paris 2024, ce tournoi, c'est aussi l'occasion pour les organisateurs de promouvoir le beach volley. David Donnelly.
Ça fait partie de ces sports qui sont très spectaculaires et qui fonctionnent très très bien pendant les Jeux Olympiques. T'es toujours sur des sites, des endroits magnifiques. Et il y a un truc avec ce sport qu'on a envie de faire découvrir au plus grand nombre.
Et pendant les Jeux, c'est sur un autre lieu mythique que le public viendra soutenir les beach volleyeurs, puisque c'est sur le Champ de Mars que seront installés les terrains de sable.
Et oui, le beach volley, c'est spectaculaire. Allez les voir jouer. Programme aujourd'hui les quarts puis les demi-finales qui se joueront à 21h avant la finale demain après-midi dès 16h.
Et puis a priori pas trop de pluie, en tout cas moins que quand c'est le tennis.
Oh, oui, beaucoup moins, ça devrait bien se passer.
Pour le beach volley. Soyez les bienvenus, 7h39, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Des petits bonjours, on adore ça, on se réveille ensemble. Écrivez-nous, d'autant plus quand c'est un jour particulier.
Ah bah oui, parce que là, ce sont les 28 ans de mariage de Pierre-Yves aujourd'hui.
Oh.
Il nous dit que ce sont les noces de nickel. Bon anniversaire de mariage, Pierre-Yves.
Oh oui, Pierre-Yves, fidèle parmi les fidèles. Pierre-Yves Boulanger, dans le sud-est de la France, Ardéchois de mémoire, je pense que c'est lui, mon cher Pierre-Yves. Bravo. Joyeux anniversaire à vous. Tiens, qui est-ce qu'on entend ?
Patrick Sébastien ?
Ah, c'est Patrick Sébastien. Bah tiens, j'en profite pour vous annoncer que Patrick Sébastien sera avec nous demain, dans la matinale week-end. Patrick Sébastien à 8h40 demain.
Super transition.
Allez, en attendant, il est 7h40, nous sommes samedi, dans un instant, tout autre chose. Allô, allô, c'est pour le CPF. C'est insupportable, ces appels, ces SMS, la fraude au compte personnel formation. Comment lutter, comment en finir avec cela? Un député en fait son combat, il s'appelle Bruno Fuchs, député Renaissance du Haut-Rhin. Il est avec nous dans 2 minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end. RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bienvenue sur RMC, 7h43.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Bruno Fuchs, bonjour.
Bonjour.
Membre du Modem, député du Haut-Rhin, vous déposez une proposition de loi contre le démarchage abusif au CPF, le fameux compte personnel de formation. On a tous reçu ces appels, ces SMS, ces mails, parfois insistants. Je le disais, c'est insupportable. On va y revenir dans un instant, Bruno Fuchs. J'ai d'abord une ou deux questions d'actualité. L'imam Iqiyoussem, arrêté hier en Belgique. Gérald Darmanin s'en réjouit ce matin. Il a été repéré, localisé par la police française à Mons, juste à la frontière. Il devrait être renvoyé en France dans les prochains jours. J'allais dire enfin, Bruno Fuchs, ça fait plus d'un mois que le feuilleton traîne.
Oui, enfin, je pense que c'est un retour à la normale. Il y a arrêté d'expulsion et puis depuis qu'il a, il a fui en réalité ses responsabilités puisqu'il a refusé d'assumer les discours de haine antisémite et notamment de discours d'infériorité de la femme puisqu'il a, il a fui. Enfin, c'est un retour à la normale, je pense. C'est un retour aussi qui marque la détermination de la lutte contre l'islam politique. Et puisque je vous parle de Mulhouse, qui est une ville dans laquelle nous avons 130 nationalités de très fortes communautés musulmanes, je voudrais surtout dire qu'il s'agit là d'un individu, ils sont peu nombreux, identifiés pour la plupart, et qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que ce que cherche cet imam, c'est maintenant à avoir une position de victime.
Pas d'amalgame, mais en même temps, c'est un message envoyé à d'autres prédicateurs qui pourraient se trouver à Mulhouse ou ailleurs. C'est ce que disait l'imam Hassan Chalgoumi, imam de Drancy ce matin sur RMC, en disant « L'État français, en arrêtant Iqiyoussem, envoie aussi ce message que tôt ou tard, la justice les rattrape ».
À d'autres prédicateurs, exactement. Mais surtout, je pense que ce que cherche cet imam, c'est à se rendre victime en médiatisant effectivement sa fuite, son arrestation, et à vouloir faire un amalgame avec une partie importante de nos compatriotes de confession musulmane. Là, ici, je le vois tous les jours, nous avons des millions de musulmans qui vivent leur foi tout en étant très bien intégrés dans les valeurs de la République.
La donc, suite.
Il y a des prédicateurs, il faut mettre un terme à ces actions d'islam politique, de séparatisme, mais il s'agit d'une partie très minoritaire de la population ici présente en France.
La suite voulue par Gérald Darmanin, c'est qu'il soit désormais expulsé, renvoyé vers le Maroc, sauf que le Maroc n'en veut plus. Donc il va falloir aussi régler ce problème là, Bruno Fuchs, sinon c'est au moins un demi-camouflet pour le ministre de l'Intérieur.
Oui, mais c'est un problème qui est plus large, c'est que nous avons effectivement une partie importante des personnes qui sont expulsées que leur pays d'origine ne veut pas recueillir. Donc on a un effort diplomatique à faire de façon plus large avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec d'autres pays qui, avec lesquels on a effectivement commencé, et le ministre en particulier, a commencé un bras de fer pour qu'ils puissent accueillir ces prédicateurs.
Remettre qui encore sont, la pression alors.
Oui, la pression ou des discussions plus contributives. C'est pas forcément un rapport de force. Je pense qu'il faut que chacun voit son intérêt. On ne peut pas, nous, en France, accueillir des personnes qui ne sont pas dans les valeurs de la République. Et même si nous sommes en démocratie, il faut qu'on ait des procédures simplifiées pour pouvoir les renvoyer. On ne peut pas avoir des procédures qui durent éternellement de façon à ce que ces personnes ne restent pas sur le territoire français.
Bruno Fuchs,
on n'est pas dans un rapport de force. Il faut que ce soit de la diplomatie plus constructive, à mon avis.
Bruno Fuchs, j'en viens au CPF. Votre dossier appelle intempestif qui nous pousse à utiliser l'argent de notre compte personnel de formation. La plupart du temps, ce sont des arnaques. Jusqu'à 43 millions d'euros d'arnaque évoque Bercy. Que proposez-vous pour y mettre fin ?
Alors, la mesure la plus forte et identifiée, c'est une mesure d'interdiction pure et simple de démarchage sous toutes ses formes directement des titulaires de CPF.
On ne nous appellerait plus, on ne recevrait plus de mails ou de SMS. Concrètement, comment ça peut marcher ?
Si, vous allez certainement recevoir encore pendant un certain temps, sauf que le fait de vous démarcher devient purement illégal et donc passe sous le coup de la loi. Donc quand vous recevez le premier message et quand vous recevez un SMS ou un appel ou un courriel, vous savez que cette démarche-là est illégale. Donc vous n'avez plus de doute dans votre esprit sur la légalité de la démarche.
Ça, c'est et la, alors l'expéditeur la chose la plus importante. Serait sanctionné alors ?
Alors ensuite, on a deux types de sanctions. On a une sanction, et c'est ça que renforce la loi également, ou la précise, on a une sanction qui est administrative. Immédiatement, la société ou la personne qui ferait ça tomberait sous le coup de la loi, jusqu'à 375 000 euros d'amende. Ça, c'est une amende administrative.
Dissuasive.
Ce qui n'empêche pas, oui, c'est normalement assez dissuasif. Et ça n'empêche pas derrière des poursuites pénales si vous tombez sous le coup de la loi, cette fois-ci en termes de poursuites pénales. Donc, mais là, vous avez une amende immédiate. Donc, je pense que ça va dissuader un grand nombre d'opérateurs de procéder de la sorte. Ça ne va pas éliminer les SMS, je pense, immédiatement.
Bien souvent, en plus, Bruno Fuchs, on s'en rend compte quand on décroche, parce que voilà, parfois, il y a des numéros, on décroche et c'est encore le CPF. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément des entreprises très organisées derrière, hein, que ce sont des individus qui essayent ici ou là. Il y a un autre problème, c'est sur les réseaux sociaux. Je vois de plus en plus d'influenceurs, Twitch, TikTok, Instagram, faire des stories qui proposent d'utiliser notre CPF directement en ligne.
Oui, mais là également, nous avons rajouté en commission un amendement important qui vise à élargir justement le champ d'action aux réseaux sociaux. Et donc ces influenceurs, s'ils interpellent directement sur la question du CPF, peuvent être également eux aussi incriminés et sanctionnés. On voit bien qu'il s'agit là pour la plupart d'entreprises très organisées, qui visent, ils le font sur le CPF, mais ils peuvent le faire aussi sur d'autres sujets, la carte vitale par exemple. Et donc il faut mettre un terme à une organisation criminels, hein, ou en tant qu'escrocs internationaux, qui ont trouvé là une sorte de martingale et qui n'ont rien à voir avec la formation professionnelle. Pour la plupart, ce sont des plateformes d'appel qui visent à essayer de trouver des prospects et à vider les comptes de formation.
J'entends votre détermination, Bruno Fuchs. Votre texte a été approuvé en commission cette semaine. Il sera étudié la semaine prochaine en hémicycle. Le tout, c'est que la loi soit appliquée derrière et que réellement... on est de moins en moins ce genre d'appels et de mails. Vous avez espoir ?
Alors, d'un mot ? La loi doit être appliquée, mais quand vous avez un feu rouge, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, qui sont des contrôles. Donc l'idée, c'est de baisser massivement l'incitation de ces escrocs à le faire, et ensuite, il faut que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ait les moyens. Et ça, c'est pas un sujet législatif, ça c'est un sujet d'administration, de budget, de moyens pour aller poursuivre justement les contrevenants.
Faudra ça, passer une tête dans le bureau de Gabriel Attal, le ministre du Budget. Merci à vous, Bruno Fuchs, député MoDem du Haut-Rhin. Merci d'avoir été avec nous
merci
RMC. Il est 7h51.
À suivre dans la matinale week-end.
On appelle le cuistot de Poutine.
Et il vient de reconnaître enfin qu'il est bel et bien l'homme à la tête de Wagner, cette milice russe ultra-violente. Le cuistot de Poutine, c'est Evgeny Prigogine et il est dans le portrait de Poincar dans une minute sur RMC.
RMC, la matinale week-end. RMC jusqu'à 9h. La matinale week-end. Mathieu Rouault.
Bienvenue sur RMC. Dans 20 minutes, il sera 8h10 et on passera un coup de fil au maire adjoint à la sécurité à Nantes. Il y a une manifestation ce week-end, l'insécurité. Est-ce que vous vous sentez en insécurité? Tiens, 32-16, on va en débattre tout à l'heure à 8h10. D'abord, c'est le portrait de la semaine.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincar.
Chaque samedi, la personnalité qui a marqué l'actualité de la semaine.
Avec Nicolas Poincaré, bien sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour.
Evgeny Prigogine, proche de Vladimir Poutine, qui a donc reconnu être à la tête de la fameuse milice Wagner.
Ce que l'on savait en réalité, on savait depuis longtemps que cet homme, Evgeny Prigogine, est bien le véritable patron de Wagner, cette armée secrète qui est présente partout où la Russie a des intérêts stratégiques. Des soldats de Wagner sont intervenus en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad, ils sont en République centrafricaine, ils sont au Mali où leur arrivée a précipité le départ de l'armée française et bien sûr Wagner est présent en Ukraine depuis 2014 aux côtés des séparatistes du Donbass. On savait donc que ces mercenaires étaient dirigés d'une main de fer par ce proche de Poutine, Evgeny Prigogine, que l'on appelle le cuistot de Poutine, parce que dans les années 90, il tenait un restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg où Poutine déjeunait tous les jours. À l'époque, Prigogine sortait tout juste de prison où il avait purgé 10 ans pour escroquerie et proxénétisme. Depuis, il a fait fortune, principalement dans la restauration. Il est aussi à la tête d'une usine à trolls, c'est-à-dire une entreprise de propagande et de désinformation sur Internet qui a par exemple tenté de peser sur les élections américaines en faveur de Donald Trump. Mais son métier principal, c'est donc bien chef de milice, chef d'une des plus grandes armées privées du monde.
Effectivement, vous l'avez répété plusieurs fois, on le savait ou on s'en doutait, mais lui ne reconnaissait absolument pas.
Absolument pas, il faisait même des procès à tous les médias russes qui osaient évoquer ses liens avec Wagner. Mais il vient donc de sortir de l'ombre et enfin d'assumer. Il y a une dizaine de jours, il a d'abord accepté de se laisser filmer en train de recruter des prisonniers dans une colonie pénitentiaire. Sur les images qu'il a volontairement rendu public, on le voit haranguer une foule, offrant aux condamnés la liberté en échange d'un engagement de 6 mois en Ukraine. Tous les hommes, tous les prisonniers de 22 à 50 ans sont acceptés à condition d'être en bonne forme physique. Il précise qu'il accepte les violeurs parce que, dit-il, tout le monde peut faire une erreur. Mais il prévient, attention, les déserteurs seront fusillés. Donc libérés s'ils restent 6 mois, fusillés s'ils tentent de s'enfuir. Après cette première vidéo, Evgeny Prigogine a publié un communiqué cette semaine donc pour confirmer qu'il est bien le fondateur et le dirigeant de Wagner. Un groupe, dit-il, qui regroupe des gars qui sont des héros, les piliers de notre patrie. Alors difficile de comprendre pourquoi ce chef mercenaire décide soudain de se mettre dans la lumière. Peut-être pour des raisons de lutte d'influence dans l'entourage de Vladimir Poutine. Peut-être aussi pour effrayer les Ukrainiens et leurs alliés en leur disant « Attention, sachez que notre milice arrive avec dans ses rangs des assassins, des violeurs, des drogués, des tolards sans foi ni loi. »
Merci beaucoup, Nicolas Poincaré, votre portrait. Bien sûr, comme d'habitude, en podcast sur l'appli RMC. Restez bien avec nous. Dans un instant, il sera 8h.
RMC, la matinale week-end.